aujourd'hui à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, il sera question du bienheureux frère André. C'est sa fête, c'est une grande fête pour beaucoup de gens aujourd'hui. Il est mort en 1937, c'est un membre de la congrégation de Sainte-Croix. Il était frère, comme on disait à l'époque, frère convert. Et il sera question dans la deuxième moitié de l'émission, après avoir résumé sa vie un peu, que je vous ai déjà raconté deux fois, en 96 et 97, je vais parler de son grand amour pour Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est presque comme un mythe, et on dit Saint-Joseph, mais on sait pas au juste qui c'est. Je vous ai déjà fait des émissions sur Saint-Joseph pour essayer de comprendre qui il est. Et c'est très important. Mais c'est très important aussi de savoir qui est ce bon frère André, qui est un simple Québécois, très humble, mais très authentique et très vrai et extraordinaire, réputé dans le monde entier. D'ailleurs, à Montréal, au Québec et presque dans le monde entier, chez les catholiques, à tout le moins, quand on parle de Saint-Joseph, il n'est pas possible de parler de Saint-Joseph sans mentionner l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et le frère André, parce que l'oratoire Saint-Joseph, c'est un des bâtiments religieux les plus importants au monde, et c'est le plus grand consacré à la gloire de Saint-Joseph. Et alors, il est normal de raconter la vie de son fondateur, le frère André, pour bien comprendre tout ça. C'est un homme si modeste au fond de son vivant, qu'il aime à passer inaperçu et à s'appeler le petit chien de Saint-Joseph. C'est une même de ses dernières paroles avant de mourir. Il jouit, comme je vous ai dit, depuis sa mort d'une renommée universelle. Mais rien dans la vie du frère André jusqu'à l'heure où commence cette étrange mission que Dieu lui assigne, c'est très, très, très surprenant, rien ne laisse prévoir qu'il sera le fondateur de ce grand lieu de pèlerinage mondial dédié à Saint-Joseph, auprès duquel nous vivons, et nous nous rendons peut-être pas assez compte jusqu'à quel point cet oratoire, cette église est extraordinaire. D'ailleurs, c'est très beau. Il faut vraiment visiter ça. Il y a un musée aussi. Il y a des célébrations superbes. C'est très, très, très beau, l'oratoire Saint-Joseph. Et c'est situé sur une montagne, comme vous savez, sur la montagne au centre de Montréal. Et ça nous permet de voir les Laurentides au loin, des lacs au loin, d'immenses lacs. C'est très beau. C'est sûr que le nom du frère André est lié au nom de Saint-Joseph, comme celui, on pourrait dire, de Sainte Bernadette Soubirous est lié à la Vierge de Lourdes. Hein. Quand on dit Bernadette Soubirous, on pense à Lourdes. Son père, mon frère André, c'est Isaac Bessette, qui était apparenté à mon arrière-grand-mère, qui était une Bessette du côté de ma mère. Même village. Et sa mère s'appelait de très beaux prénoms, Clotilde, une reine de France, hein, Clotilde Foisy. Très beau nom. Il naît le 9 août 1845. À Saint-Grégoire d'Iberville, notre Alfred Bessette, frère André. Il est tellement faible quand il est né qu'on craint qu'il va mourir. Alors, au lieu de le baptiser, on l'ondoie. L'ondoyer, ça veut dire lui verser un peu d'eau sur le front et le baptiser, sous condition, avant son véritable baptême, parce qu'il est le lendemain baptisé, comme ça. Et puis, il reçoit le nom d'Alfred. Tout jeune, il perd son père, qui est tué dans un accident de travail. Il a 12 ans lorsque sa mère meurt. Alors, à 12 ans, il est orphelin. Vraiment orphelin. Mais ils sont de nombreux enfants. Alors, sa mère a toujours eu une particulière affection pour cet enfant de santé faible, mais qui déjà, dans son jeune âge, est vertueux et très doux. Le frère André va dire d'ailleurs à ce sujet, « Le soir, pendant la prière récitée en famille, j'étais près d'elle et je suivais sur son chapelet. » Et encore, il dit, « J'ai rarement prié pour ma mère, mais je l'ai prié bien souvent, elle. » Il invoquait sa mère, qu'il considérait comme une sainte. Et orphelin donc de bonheur à 12 ans, comme je vous dis, Ben, Alfred Bessette est recueilli par des parents qui continuent son éducation, mais il va bientôt travailler pour gagner sa vie. Alors, il essaie de toutes sortes de métiers. Il les laisse l'un après l'autre à cause de sa santé, qui est chancelante. Puis, il est pas fort physiquement. Mais, quand même, il va aux États-Unis travailler dans les filatures, puis sur des fermes. Mais, pendant tout ce temps, il reste en contact avec un bon prêtre qu'il a connu à Saint-Césaire, où il a vécu après la mort de sa mère. Et ce prêtre, c'est l'abbé Provençal, André Provençal, qui va l'orienter vers la vie religieuse. C'est pour ce bon gars qui est Alfred Bessette, c'est la réalisation d'un beau rêve qu'il aurait jamais cru possible parce qu'il n'y avait pas d'instruction. Il pensait jamais qu'il pouvait rentrer en religion. Il se juge trop instruit pour l'état religieux, mais le bon curé lui fait comprendre que tous les religieux sont pas des professeurs, pas tous des profs, les religieux. Bien oui, il y en a qui sont très simples. Oh, je dis pas que les profs sont pas des hommes simples aussi, mais je veux dire simples sur le plan de leur instruction. Et précisément, parmi les frères de la communauté qui vient de prendre la direction du collège de Saint-Césaire, fondé par M. Provençal lui-même, eh bien, quelques-uns des religieux se consacrent aux travaux manuels. Et ils participent là, de cette façon-là à l'apostolat d'éducation de leurs confrères plus instruits, mais pas nécessairement plus sains, on le sait. Et c'est ainsi qu'à l'automne de 1870, âgé de 25 ans, Alfred Bessette entre au noviciat de la congrégation de Sainte-Croix, puis il y prend l'habit un 27 décembre de la même année, quelques jours après la proclamation par Pie IX du patronage de Saint-Joseph sur l'Église universelle. Ça survient à peu près en même temps, c'est un peu curieux. C'est tout de même intéressant à signaler. Hein? Il choisit donc le nom de Frère André, en souvenir de son ami et protecteur, l'abbé André Provençal. Je vous signale que si vous voulez compléter ce que je vous dis en résumé là, pendant la première demi-heure, vous pouvez vous attaquer, si vous voulez, à un ouvrage paru il y a déjà plus de 30 ans, du chanoine Étienne Cata. C'est passionnant à lire, le frère André. 1845-1937 et l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. C'est un ouvrage considérable. Immense. C'est vraiment un ouvrage de référence. Il y a des photos intéressantes, d'ailleurs. Il y a des tables analytiques à la fin. C'est plus de 1000 pages. Et c'était publié par Fides. C'est relié. C'est paru, donc, en 1964. Je sais pas si on le trouve encore sur le marché, j'en doute. Mais probablement que sur le marché, on retrouve encore celui qui est écrit comme un roman, avec des dialogues. Le frère André, l'histoire de l'obscur portier qui allait accomplir des miracles, par la fameuse Micheline Lachance, aux éditions de l'Homme. Ouvrage pas trop long, en gros caractères, qui se lit bien, c'est comme un roman, mais c'est pas un roman, c'est vraiment l'histoire. C'est plus de 400 pages et ça vaut la peine. Il y en a une qui est plus courte, qui est parue en 1993, qui n'a qu'à peu près une soixantaine de pages. C'est dans la collection Célébrité canadienne. C'est le frère André par Denise Nadeau, chez Lidec. C'est pas cher, ça. Et ça se vend quelques dollars. Dans cette collection, il y a non seulement le frère André, mais il y a aussi Olivier Asselin, puis il y a Alexander Graham Bell, puis le Monsieur Bombardier, il y a même Robert Bourassa, Henri Bourassa, Marguerite Bourgeois. C'est incroyable tout le monde qu'il y a dans cette collection. Il y a même Paul-Émile Bordua, puis il y a Maisonneuve, etc., etc. Et il y a aussi, il est paru il y a 2 ans, l'excellent livre de l'abbé Jean-Guy Dubuc, qui est un journaliste très réputé, et qui est aujourd'hui, je crois, à l'oratoire. C'est le frère André, tout simplement, le frère André chez Fides. Je vous le recommande fortement. C'est un ouvrage qui se lit très intelligemment, qui est bien fait, puis il y a des photos aussi un peu. Alors donc, il entre dans la congrégation de Sainte-Croix, notre Alfred Bessette. Cette congrégation se compose, c'est ce qu'on dit dans les constitutions, de 2 sociétés distinctes, mais non séparées, c'est-à-dire de prêtres ou clercs, et de frères laïcs. Vous savez que les frères, ce sont des laïcs, au fond, mais des laïcs consacrés. Hein? Et les frères se divisent en frères d'études. Il y en a qui font de très grosses études. Il y en a qui ont, se demandent comment ça se fait qu'ils sont pas prêtres. Et d'autres en frères coadjuteurs pour les gros travaux des diverses maisons. Alors, le frère André, c'est évident, était parmi les frères du groupe de ceux qui pourvoient aux emplois manuels. Au moment où le frère André entre donc dans les rangs de cette congrégation de Sainte-Croix, mais cette congrégation est encore relativement jeune, elle a été fondée au Mans, en France, bien, quand on parle des courses d'automobiles du Mans, M-A-N-S, là, pas loin de l'abbaye de Solesmes, ça. C'était fondé dans la première moitié du 19e siècle par l'abbé Basile Moreau. Je vous en avais parlé il y a un an, le 19 janvier. Il y a la cassette est disponible. Cette fondation avait été le résultat de l'union de deux sociétés religieuses. Je vous les signale parce que c'est intéressant. Les prêtres auxiliaires du Mans, fondés en 1835, et les frères de Saint-Joseph, ouais, fondés en 1820. Alors, les frères de Saint-Joseph, c'est un nom prédestiné, semble-t-il, lorsqu'il l'a donné à son jeune institut qu'il venait de fonder, l'abbé Jacques-François Dujarrier, dont j'ai la vie, il faudrait bien que je vous raconte ça, qui était curé de Ruillé. Mais il semble avoir été presque un prophète, c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est curieux. Il reste cependant que le rôle est bien mystérieux de la providence de Dieu qui... toute pleine de tendresse et qui donne des signes comme ça, parfois même des clins d'œil. On dirait que Dieu nous fait des clins d'œil. Hein? Lui, Dieu qui inspire une telle pensée à ce curé Dujarrier, puis Dieu suscite ensuite une solide dévotion à Saint-Joseph au cœur du père Moreau, Basile Moreau, celui-là même qui, à la démission du père Dujarrier, reçoit la direction des frères de Saint-Joseph. Et c'est lui... Le père Moreau, qui va, après toutes sortes de modifications, poser comme une des bases de la congrégation de Sainte-Croix, la dévotion à Saint-Joseph. Alors, à peine née, donc, cette jeune congrégation qui a fait tant de bien ici au Québec, je pense à un prêtre que j'aime beaucoup, le père André Legault. Quel homme qui est curé de Saint-Germain. Saint-Germain à Outremont. Que j'admire beaucoup, et tant d'autres prêtres et frères de cette congrégation, et les sœurs aussi sont admirables. Alors, à peine née, donc, cette jeune congrégation de Sainte-Croix ne tarde pas à se répandre par le monde. Et ils vont en Algérie. À l'époque, on pouvait aller en Algérie comme ça. 1840, 1841 aux États-Unis. Et la première fondation en terre américaine va être célèbre à cause non pas seulement de l'université Notre-Dame ou Notre-Dame dans l'Indiana, mais aussi sa fameuse équipe de football. Bon. En 1847, ils s'établissent au Canada à Saint-Laurent, près de Montréal. Oui, à Ville-Saint-Laurent, sur l'invitation de l'évêque, Monseigneur Ignace Bourget. Quelques maisons sont ouvertes dans les années qui suivent. En 1869, il y a deux collèges qui sont fondés. Le collège Notre-Dame qui s'appelait Notre-Dame du Sacré-Cœur à la Côte-des-Neiges, qui était un village dans le temps. Je m'en souviens de ce village. Quand j'étais jeune, ça existait encore, oui, au début des années 30. Et un autre collège à Saint-André, à Saint-Césaire. Ces deux collèges vont jouer un rôle spécial dans la vocation du frère André, parce qu'à Saint-Césaire, il connaît les religieux de la communauté où il va entrer. Puis le collège Notre-Dame... compte dès 1870 le nom d'Alfred Bessette. Alors postulant, il va devenir le frère André dans la liste de son personnel. Mais le séjour du frère André dans cette maison va être beaucoup plus long que ces quelques mois de postulat. Il est admis donc au noviciat en décembre 1870. Et le frère André fait sa première profession religieuse à la fin de décembre 1871. Et cette année de formation n'est pas sans épreuve. Nous allons nous arrêter pour écouter le fameux carillon de l'oratoire Saint-Joseph. Ce fameux carillon qui a été installé là en 1954, saviez-vous qu'il était destiné à la Tour Eiffel, à Paris, oui. Et puis ça n'a pas marché, alors l'oratoire Saint-Joseph en a hérité. Donc à 26 ans, on a le frère André, qui a quitté son nom de Alfred, en 1871 en émettant ses vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. À un certain moment, les supérieurs hésitent. Ils se demandent s'ils vont garder ce jeune homme, dont la santé est vraiment pas bonne, et puis qui n'a pas de grande disposition pour les travaux, d'ailleurs. Ce n'est pas drôle pour ce novice, ce jeune prophète qui est plein d'ambition. Alors il décide, lui qui est très timide, il ose aller se jeter aux pieds de Monseigneur Bourget, qui est de passage dans la maison, l'évêque de Montréal, pour lui demander son assistance. Et Monseigneur Bourget, tout ému de voir ce jeune frère de 26 ans, alors, il lui promet de l'assister. Et puis, il se doute pas qu'en même temps qu'il assure la vocation de ce jeune frère, qu'il va réaliser son rêve à lui-même, Monseigneur Bourget, son rêve de doter le diocèse de Montréal d'un sanctuaire à Saint-Joseph. C'est curieux. Vous connaissez tous cette blague du frère André. Hein? Au sortir du noviciat, les supérieurs m'ont mis à la porte et j'y suis demeuré 40 ans sans partir. Bien oui, il a été portier très longtemps. Il aime ça répéter cette petite blague. D'ailleurs, il entend rire, ce bienheureux béatifié en 1982. Il aime ça blaguer un peu. D'ailleurs, le frère André a un esprit fin, c'est un esprit délié aussi. Et pour cela, un peu, peut-être qu'il a été nommé portier, ça prend un homme comme ça à la porte, hein, pour être accueillant au Collège Notre-Dame, et non pas quelqu'un qui a une face de bois, c'est moins drôle, ça peut arriver. Et c'est un emploi qu'il va remplir, donc, pendant 38 années. Il va être aussi coiffeur des élèves, c'est-à-dire barbier, comme on disait dans le temps. Mais les élèves avaient pas de barbe, évidemment. Et il était commissionnaire, jardinier, et puis faisait une foule d'autres petites besognes. Donc, une vie très humble. Et ainsi s'écoule, donc, cette vie obscure en apparence, et toute remplie de prières, de chapelets récités en allant et venant, et puis aussi de mortifications. Oui, il se discipline personnellement pour être fidèle. Et il sera fidèle. Le Seigneur prépare comme cela... celui qu'il a choisi pour être l'instrument de la glorification de son père Saint-Joseph, hein? Son père terrestre, son père adoptif. Tout jeune, le frère André a une grande dévotion à Saint-Joseph. Et le curé André Provençal, qui entretenait lui-même une grande piété envers le grand saint, ne fait qu'encourager la piété de son protégé. Enfin, dans la congrégation de Sainte-Croix, le culte de Saint-Joseph était en grand honneur, hein? Comme chez les carmélites de Sainte-Thérèse d'Avila au XVIe siècle, hein? C'est pas d'aujourd'hui. Et c'est comme cela que, peu à peu, insensiblement, ce simple portier va commencer son apostolat, et d'abord auprès des élèves et de leurs parents. Et puis, il glisse souvent un conseil à propos, comme ça, au sujet d'une maladie ou d'une difficulté quelconque, hein? Il recommande le recours au chef de la Sainte Famille. Dans ce temps-là, les familles avaient des chefs. Bon, c'est une petite blague, je m'excuse. Alors, on parle déjà de guérison, de faveur obtenue. Et plus tard, par les soins du frère André, une statuette de Saint-Joseph est fixée au rocher de la montagne qui s'élève là sur le terrain vague en face du Collège Notre-Dame, mais sur ce qu'on appelle le chemin Queen Mary. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle pas le chemin du frère André ou le chemin de l'oratoire. Qu'est-ce qu'on attend, hein? Qu'est-ce qu'on attend? Puis, le terrain est acquis là, par la communauté de Sainte-Croix, et le frère André prend l'habitude d'y conduire en pèlerinage les gens qui, de plus en plus nombreux, s'adressent à lui, et on peut dire que c'est là que l'oratoire du Mont-Royal est né. Alors, nous sommes donc au mois de novembre 1904, c'est pas d'aujourd'hui, c'est bientôt le centenaire, le 19 novembre plus précisément, et une statue de Saint-Joseph est bénite dans la chapelle du Collège Notre-Dame, elle est portée processionnellement, puis elle est accompagnée des professeurs, des élèves et de quelques fidèles, là, par un sentier plutôt escarpé, hein, qu'on a aménagé au flanc de la montagne jusqu'à l'endroit où le frère André a d'abord fixé une statuette. Une petite chapelle de 15 pieds par 18 a été construite. Puis, Monseigneur Racicot, qui est évêque auxiliaire à Montréal, vient la bénir. En 1908, une nef est ajoutée à cette chapelle. Puis peu après, frère André quitte le collège Notre-Dame et c'est commencé. Il est nommé officiellement gardien de l'oratoire où il demeure désormais. Pendant près de 30 ans, dans le bureau qu'on lui a installé, son bureau, ben il l'appelle son bourreau. Hein. Il aime bien ça, dire ça en souriant. Il y a de l'humour, toujours. Hein. Et il reçoit, jour après jour, d'innombrables visiteurs qui viennent demander des faveurs par l'entremise de Saint-Joseph. Saint-Joseph servant d'intercesseur auprès de son fils Jésus. Et Jésus, qui est Dieu, obtenant du Père, auquel il est uni éternellement, des faveurs, des dérogements, si on pourrait dire, aux règles des choses, des guérisons incroyables. Invariablement, il recommande la confiance. Hein? Oui, le frère André prescrit de faire une neuvaine, mettons, à Saint-Joseph avec confiance. Alors, il préconise, chose qui peut surprendre, de se frictionner avec l'huile de Saint-Joseph. Cette huile qui a brûlé devant la statue de Saint-Joseph. Puis d'appliquer aussi la médaille, qui est comme un portrait, si vous voulez, de Saint-Joseph. On l'applique contre la plaie, mais avec foi, en priant. C'est un geste qui aide. Hein? Et les guérisons, les faveurs se multiplient, ainsi que les conversions, d'ailleurs. Car le frère André n'est pas un marchand de miracles, pas du tout. Ce qu'il veut, c'est la conversion. Le bien surnaturel, le retour à Dieu. C'est pourquoi il répond souvent à ceux qui demandent un bienfait d'ordre temporel. Allez donc d'abord vous confesser. Oui, vous confessez. Alors, il s'agit donc de faire une vraie démarche spirituelle vers Dieu, pour le frère André. Hein? Et l'oratoire continue de se développer, puis la chapelle primitive est de nouveau agrandie en 1912 et doit bientôt laisser la place à la crypte, la fameuse crypte dont la construction est parachevée en 1917. Hein? Qui ne connaît pas cette crypte avec la statue de Saint-Joseph au rayon doré? Hein? Puis en 1922, l'immense basilique commence à jaillir de terre. Momentanément interrompu, les travaux reprennent en 1937 pour ne plus s'interrompre, quelques mois après la mort du frère André, évidemment. Deux mois avant sa mort, en novembre 1936 d'ailleurs, alors que toutes sortes de difficultés s'opposent à la reprise des travaux, mais qu'est-ce qu'il fait le frère André? Il a suggéré de placer une statue Saint-Joseph entre les murs inachevés de la basilique, donc aux quatre vents, ajoutant que Saint-Joseph trouverait de quoi se couvrir, dit-il. C'est ce qui est arrivé. Il semble bien que la prédiction soit vraiment réalisée, parce que sa confiance en Saint-Joseph, père de Jésus, père en somme adoptif, était totale. Hein? Et toujours, l'oratoire va de l'avant, et l'œuvre du frère André s'amplifie, se parachève, prend des développements insoupçonnés sous la direction de ses continuateurs, les religieux de Sainte-Croix. Quelques dates le démontreront. D'ailleurs, en 1941... c'est l'installation de la croix au sommet du lanterneau du dôme. Vous savez, quand on passe, on voit ça, c'est une hauteur fantastique. Une vaste chaufferie aussi est édifiée en 1948, c'est toute une entreprise. En 1950, l'escalier de la basilique est terminé, ainsi que la chapelle des ex-voto, l'immense chapelle des ex-voto. Et les escaliers mécaniques sont très pratiques, c'est haut, hein. Et les jardins du chemin de la Croix sont inaugurés en 1951, et savez-vous qu'ils sont entretenus par un ardent bénévole de Radio Ville-Marie? Je tairai son nom parce qu'il serait pas content. Et en 1953, la basilique sert à quelques manifestations artistiques. En novembre 1954, la basilique temporairement aménagée est ouverte au culte, à l'occasion des fêtes grandioses du cinquantenaire. Et pour l'ouverture de l'année jubilaire de Saint-Joseph le 8 décembre. C'était fantastique, c'était des cérémonies magnifiques. Puis la chapelle primitive de Saint-Joseph est transportée plus haut dans la montagne, dans un endroit plus recueilli, puis on y conserve le Saint-Sacrement. Puis la prière s'y poursuit perpétuellement tout au long de l'année jubilaire. Et le frère André, malgré sa modestie puis son application à rester dans l'ombre, est devenu l'un des hommes les plus connus du Canada et même de l'Amérique, hein? A aussi sa mort qui survient le 6 janvier, et l'anniversaire, 1937, au matin de l'Épiphanie, a une répercussion extraordinaire. Et dès que la radio a communiqué la nouvelle, les foules commencent à affluer au Mont-Royal, et tous ces gens qui ont vu ou connu ou ont simplement entendu parler du frère André, ceux sur qui il s'est penché, qui l'a accompagné, qui l'a consolé, qui l'a guéri, qui l'a encouragé. Il déferle par centaines de milliers, je dis bien centaines de milliers, sans répit. Sauf la brève halte là, d'un samedi après-midi, lorsque le corps a été transporté à la cathédrale de Montréal pour un premier service solennel. Eh bien, c'est un triomphe inouï, qui va durer une semaine.
Des douleurs musculaires et articulaires, des problèmes d'équilibre, de concentration, fatigue chronique, fibromyalgie, douleurs de pied, fatalité ou conséquence. Il existe des solutions simples et pleines de bon sens. Malgré certains traitements, vos problèmes récidivent, il est temps d'avoir une évaluation de votre posture. Contactez Thierry Potreau au 277-7007 ou le 1-877-POSTURE.
Le triomphe inouï qui suit la mort du frère André dure une semaine, comme je dis. Malgré une température très, très inclémente, je m'en souviens de ce temps. J'avais 10 ans. C'était humide. Il y avait de la pluie puis du verglas. Oui, du verglas. On attendait dehors de longues heures pour obtenir de passer devant la dépouille là de ce frère André qui était dans la crypte. Là. Puis de faire une brève pause, on passait, on n'arrêtait même pas, on pouvait pas, il y avait tellement de monde. Aux heures de grande affluence, d'ailleurs, les pèlerins défilaient au rythme de 100 à 120 à la minute. Alors 120 à la minute, ça fait dire 2 par seconde, vous voyez le genre, hein? Oui, je m'en souviens, j'y suis allé, j'avais 10 ans, j'y suis allé avec ma tante Rose Beaugrand-Champagne, la sœur de mon père. Puis, le mardi 2 janvier, c'était le grand hommage de tout le peuple. Le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, primat de l'Église canadienne, vous savez que l'archevêque de Québec est primat de l'Église canadienne, préside le service funèbre que chante Monseigneur Limoges, évêque de Mont-Laurier. Avant la psaute, le cardinal prononce l'éloge du frère André. Je ne vous en lis qu'un bref passage. Sur la tombe qui garde les restes vénérés de l'apôtre de Saint-Joseph, le frère André, vous lirez 3 mots. Pauper servus et humilis. On voit ça quand on va à l'oratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pauper, ça veut dire pauvre. Le religieux que vous êtes venu voir, dit le cardinal Villeneuve, que vous êtes venu voir ici tant de fois, et pauvre. Servus, ça veut dire serviteur. Frère convert, au dernier rang de la communauté. Pourtant, le pape est au premier rang de la communauté, et le servus, le serviteur des serviteurs. C'est son titre le plus beau. Le troisième mot, c'est humilis, dit le cardinal Villeneuve. Humble, si petit à ses propres yeux, qu'il ne soupçonnait même pas l'ampleur de son œuvre et qu'il ignora toujours qu'il pût attirer des foules. Et le cardinal ajoute, et cela reporte notre pensée sur un autre pauvre, un autre obscur, Joseph, époux de Marie, que Dieu a choisi pour abriter la virginité de sa mère et protéger la divinité de son fils. Et voyez celui que Saint Joseph a choisi. Saint Joseph a choisi non seulement pour construire cette basilique, mais pour répandre la dévotion qui s'est emparée de notre peuple depuis 30 ans. Du frère André à Saint Joseph, continue le cardinal Villeneuve, remontons encore plus haut, allons jusqu'au Christ descendu du ciel sur la terre et né dans une crèche pour libérer le monde. Voilà le vrai christianisme que nous célébrons en ces jours où ces murs ont été trop étroits pour recevoir les centaines de milliers de croyants. C'est à l'humilité que vous venez de rendre hommage et c'est sur la doctrine de l'humilité qu'il nous faut insister aujourd'hui. Le culte des saints chez le frère André, en particulier le frère de Saint-Joseph, a été constamment orienté vers le culte liturgique à la Sainte Trinité. Il avait ça au fond lui-même. Et ça se voit non seulement par sa dévotion à la messe, mais aussi par des affirmations absolument explicites, comme le rappelle le père Henri-Paul Bergeron. Remarquez bien que l'un des témoins assidus de l'œuvre de l'oratoire, qui a visité très souvent le frère André, ses sœurs Leblanc, des religieuses de la Providence. Elle affirme, le frère André parlait souvent de la Sainte Trinité. Ça vous étonne peut-être? En parle-t-on assez de la Sainte Trinité, nous? Le frère André, dit donc cette sœur Leblanc, des sœurs de la Providence, le frère André parlait souvent de la Sainte Trinité. Il rappelait la bonté du Père, qui nous a donné son Fils unique. Il recommandait de prier le Saint-Esprit, afin d'obtenir les lumières dont nous avons besoin. Il qualifiait de Trinité terrestre Jésus, Marie et Joseph, qui nous rappelait la Sainte Trinité. On peut lire ça dans le gros bouquin du chanoine Cata dont je vous ai parlé tout à l'heure. La vénération du frère André pour Saint-Joseph est donc un aspect de sa relation avec l'Église du ciel dans la communion des saints. Et son amour, débordant pour le prochain, s'étend à ceux qui sont rendus dans le ciel. Et comme le révèlent certaines de ses confidences, bien il vénère non seulement Saint-Joseph et tous les saints officiellement reconnus, là, mais il prie sa bonne maman, il prie aussi un religieux d'une grande vertu qui l'a conseillé durant son noviciat, le père Huppier. H-U-P-I-E-R. Si le culte des saints doit être subordonné à la grande vie liturgique, il le doit. On a des fêtes de saints au cours de l'année liturgique, comme aujourd'hui, c'est la fête du frère André. On peut lui rendre hommage avec toute l'Église du Québec. Alors, si le culte des saints doit être subordonné à la grande vie liturgique, comme le note le dernier concile, Vatican II, il y a bien d'autres façons aussi légitimes quand même d'honorer les saints, et la forme concrète de l'expression de la vénération envers les saints est laissée au choix personnel. Ça peut varier selon les situations puis les grâces reçues. On ne saurait donc reprocher au frère André d'avoir exprimé sa vénération envers Saint-Joseph. Il faisait ça par toutes sortes de façons, par des neuvaines de prières spéciales, ou par l'usage de médailles, il en avait toujours avec lui, qu'il distribuait. Ou d'huile, dont une partie, comme j'ai dit tout à l'heure, a été consumée devant une statue de Saint-Joseph. C'est très important de se rappeler ça. Je vais vous expliquer. Ces signes de dévotion sont dans la tradition de l'Église, et ça revient même dans les temps les plus anciens. Ça rappelle, en effet, certaines façons d'agir de notre Seigneur dans l'Évangile. C'est toujours dans le but de susciter la foi que le frère André emploie ces signes sensibles. C'est pas de la superstition, c'est pas de la magie. Cessons de s'imaginer que c'est de la magie puis c'est de la niaiserie. Peu de temps avant sa mort, il dit à son supérieur, le père Albert Cousineau, qui va devenir évêque d'Haïti, ou en Haïti, « L'huile, la médaille, dit le frère André, ça fait mieux penser à Saint-Joseph, ça excite la confiance envers lui. » Alors, l'usage de la médaille d'un saint, c'est coutumier dans l'Église. Faut pas exagérer, évidemment, mais c'est beau en soi. On garde bien dans sa main ou dans sa poche la photo de son enfant, de son bébé naissant. On montre ça à ses amis au travail. « Ah, c'est mon bébé, il a souri, il a percé sa première dent, etc. » Mais pourquoi n'aurait-on pas autour du cou l'image de Jésus? Moi, j'ai pas toujours une seule médaille, c'est Jésus. La Sainte Face. Je suis chrétien. Alors, l'usage de la médaille, ça dure depuis longtemps dans l'Église. Mais d'où vient chez le frère André l'idée de faire usage de l'huile d'olive? L'huile d'olive qui est très, très pure, n'oubliez pas, et qui est très traditionnelle dans le judéo-christianisme. On la voit, elle sert, l'huile d'olive, on la voit couler dans la barbe d'Aaron, c'est dit dans la Bible, on s'en sert pour le sacre du roi David, etc., etc. Ça a servi à alimenter la lampe qui brûlait devant le statut de Saint-Joseph, je vous ai dit. Hein. Alors, en s'inspirant du dictionnaire des Antiquités chrétiennes, qui est un dictionnaire très qu'on retrouve dans les grandes bibliothèques religieuses. Mais le chanoine Cata, qui est l'auteur de ce gros livre énorme de plus de 1000 pages sur le frère André, a souligné comment la flamme de la lampe, alimentée par l'huile d'olive, en est venue exprimer la prière, en même temps qu'elle signifie la présence eucharistique au tabernacle. On fait toujours brûler de l'huile devant un tabernacle pour nous rappeler la présence de Dieu dans l'Eucharistie, de Jésus. Et par extension, la flamme a exprimé aussi le signe de la prière adressée au saint. La flamme brûle, elle monte vers le ciel. Elle nous remplace quand on part, elle prie pour nous dans un sens. Elle est le... Il faut pas être superstitieux, je le répète. C'est un signe. C'est un signe plein d'amour qu'une flamme qui brûle. L'huile de la lampe, considérée comme faisant corps avec la flamme, a signifié également la réponse favorable à la prière. Et d'où l'usage de cette huile, tel un sacramental. C'est comme de l'eau bénite. Ça a été utilisé au sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Lors en France au début du 18e siècle, puis ensuite dans divers autres sanctuaires. Mais il faut aussi se rappeler l'huile dont on s'est servi au cours des siècles, en particulier pour les sacrements, sacrements de l'ordre, la confirmation, etc. Le baptême. Il est bien possible, comme le note le chanoine Cata, que le frère André ait puisé l'idée de conseiller aux malades l'emploi de l'huile de Saint-Joseph dans les annales de l'association de Saint-Joseph créée au Mans, en France, par le fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, Basile Moreau, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le numéro de cette revue du 15 janvier 1872, intéressant, on rapporte la guérison miraculeuse d'un blessé de guerre. Il y avait eu la guerre à ce moment-là, grâce à l'application sur la partie malade d'un peu, dit-on, d'huile qui avait brûlé devant une relique de Saint-Joseph. Il y est question aussi de lampes brûlant devant la statue de Saint-Joseph dans la chapelle de religieuses appartenant à un monastère d'Italie et qui ont été comblées de multiples faveurs. Il y est question de ça aussi. Alors, faut pas se surprendre que c'est influencé le frère André. L'huile de Saint-Joseph n'a jamais été considérée comme une espèce de panacée, c'est pas ça. Pas plus que l'eau bénite, d'ailleurs, que le frère André recommande aussi. Le frère André disait très intelligemment, il faut de la foi pour se frictionner avec de l'huile de Saint-Joseph. On se frictionne pas avec ça, de façon insignifiante. Je m'excuse de dire ça comme ça. Parfois, ça m'enrage parce que les gens nous attaquent et croient que nous sommes une bande de gens qui comprennent rien. Mais non, il faut lire les beaux textes comme celui-ci et l'emploi de moyens sensibles, donc pour exciter la foi, comme le chant grégorien ce soir au grand séminaire à 8h. Si vous allez au grand séminaire, vous allez entendre du chant grégorien. C'est pour exciter notre foi pendant la messe qui sera célébrée par Don Bessette de Saint-Benoît-du-Lac. Et l'emploi donc de moyens sensibles pour exciter la foi avant d'opérer une guérison miraculeuse, Jésus lui-même s'en est servi. Par exemple, dans les guérisons d'un aveugle né et d'un sourd-muet, où il utilise un peu de terre puis de la salive. Et le frère André le dit bien, c'est Dieu qui accorde les miracles et les faveurs par l'intermédiaire de Saint-Joseph. Une telle affirmation, sans cesse répétée par le frère André, c'est très important de le rappeler. Et rien ne l'irrite davantage que de se voir considéré comme un guérisseur. Les témoins qui l'ont aidé à accueillir les visiteurs à son bureau sont unanimes à souligner ce fait. Puis, il y avait un certain caractère, hein, le frère André. On relève les protestations vigoureuses du frère André lorsqu'il y avait des quémandeurs qui ne voulaient pas comprendre qu'il était uniquement un intermédiaire, qui les invite finalement à transmettre leur demande à Saint-Joseph. Un témoin, Monsieur Claude, a raconté que le frère André a même fait expulser assez fermement de son bureau un homme qui lui demandait par quel truc il réussissait à suggestionner les malades. Et lui, qui se montrait toujours de la plus parfaite humilité, ne pouvait tolérer ce qui lui paraissait une insulte grossière à l'adresse de Saint-Joseph. Il s'est révolté. Il l'a fait mettre à la porte, cet homme, qu'il jugeait être grossier à l'égard de Saint-Joseph et à l'égard de Dieu. J'aime bien ça. Ça rappelle Jésus au temple qui chasse les vendeurs du temple. Il était moins violent que Jésus. Jésus pouvait se permettre ça, lui. Du moins, c'est rapporté par l'Évangile. Le père André Legault a écrit une toute petite vie du frère André où il rapporte des choses assez extraordinaires. À la page 24, on nous rappelle que Le frère André ne s'ouvrira jamais de ses intimités avec Saint-Joseph, le patriarche, comme on l'appelle, père de Jésus. Certains faits merveilleux, nous dit André, le père André Legault, nous les laisse soupçonner. Et raconte un soir qu'il est prosterné en prière dans l'allée centrale de l'oratoire, la statue Saint-Joseph, devenue soudain éblouissante dans l'obscurité, semble s'avancer au-dessus de lui sur une traînée de nuages lumineux. L'ouvrier, témoin de la scène, au comble de la surprise et de la crainte, pousse le frère sans pouvoir le tirer de sa prière. Alors il sort de l'église à la course et tout blême et tout tremblant, il explique la cause de son émoi à un religieux qu'il rencontre. Alors il est conduit au père recteur de l'oratoire. Cet ouvrier raconte de nouveau la vision et il s'avoue trop ému pour rentrer dans l'église ce soir-là. Mais les religieux n'attachent pas d'importance à ce fait. En dépit des protestations énergiques de cet ouvrier qui a été témoin, un autre soir, comme le frère André s'est attardé dans l'obscurité à sa stalle derrière l'autel, cette partie du cœur s'éclaire soudain et une vive lumière l'environne. À trois ou quatre reprises, un feu en forme d'étoile brille au-dessus de sa tête et le suit pendant le chemin de la croix. Très souvent, un personnage semble l'accompagner à chaque station. Perdu dans ses prières, le bon frère André ne semble pas conscient du phénomène. C'est qu'il se produit moins pour lui que pour nous. Nos yeux terreux, presque aveugles, ont parfois besoin de ces lumières pour se dessiller, dit le père André Legault. Pour deviner un tout petit peu quelles sont les fréquentations du frère André. Alors, si le frère André a réalisé en beauté les deux premiers buts qui, au dire du concile, motivent le culte des saints, c'est-à-dire leur imitation puis leur vénération, moi, ça me donne rien de parler de tout ça depuis 3 ans si on n'en arrive pas tous ensemble à les imiter puis à les vénérer. Bien que dire de la troisième, du troisième but qu'a proposé le concile, qui est l'intercession des saints. Oui, nous devons les prier, leur demander. Et toute sa vie n'est que prière à Saint-Joseph et exhortation à prier ce saint. Cette demande d'intercession, loin d'être une déviation de l'adoration de Dieu et du recours au seul médiateur Jésus-Christ, comme nous le reprochent les protestants, ça exprime son acceptation de sa véritable situation par rapport à Dieu. J'aimerais que les protestants comprennent ça, nos frères protestants, qu'ils nous aiment dans ce que nous faisons plutôt que de nous faire des petits reproches comme ça. Par humilité, frère André s'adresse et demande aux autres de s'adresser à Saint-Joseph comme au guide capable de conduire à Jésus, qui est le médiateur unique auprès du Père. Et dès son enfance, il prie constamment Saint-Joseph, puis il exhorte les autres à recourir à lui. Puis devenu religieux, il consacre tout son temps à inciter ses confrères, les élèves, les visiteurs à prier Saint-Joseph. C'est par l'efficacité de ses prières au chef de la Sainte Famille qu'il a raison peu à peu de l'opposition qu'il rencontre dans son apostolat en faveur de la dévotion à Saint-Joseph. Et comme le rappelle le père Henri Paul Bergeron, les faits merveilleux qui s'accomplissent éclairent son entourage qui est bien lent à les admettre. Et c'est ainsi qu'après plus de 30 ans de travaux obscurs au Collège Notre-Dame, qu'il obtient, donc, comme je vous ai dit, en 1904, l'érection d'une minuscule chapelle sur le flanc du Mont-Royal, et c'est par un apostolat humble et caché que le peuple, nous, le peuple chrétien, sommes attirés. Et il sollicite l'agrandissement de la chapelle primitive, comme vous avez vu, puis la construction d'une vaste église, puis la basilique en l'honneur de Saint-Joseph. Et cette œuvre matérielle, qu'est-ce que c'est si ce n'est que le reflet de la dévotion suscitée par le frère André? Chaque parcelle de cette œuvre est le fruit d'un témoignage de reconnaissance envers Saint-Joseph, Père de Jésus, je le rappelle toujours, dont l'intercession a procuré telle ou telle faveur spirituelle ou temporelle. Je pourrais vous raconter des miracles à profusion. Vous en connaissez? Petit bonhomme qui oublie de prendre sa béquille tellement il est content parce que le frère André est là. Il se rend même pas compte qu'il est guéri dans un village du Québec où le frère André est de passage. J'ai toutes sortes de miracles comme ça. Il y en a, il y en a, il y en a. Dieu agit. Dieu, de toute façon, fait des miracles à tout instant en nous gardant en vie, en nous permettant d'engendrer de nouveaux enfants. C'est pas nous qui les faisons, c'est lui qui les fait. C'est tellement extraordinaire, nous vivons dans un monde de miracles. C'est-à-dire dans un monde où Dieu crie son existence et sa tendresse, son amour, en dépit de tout, en dépit de l'angoisse dans laquelle nous pouvons être. Oui, Dieu est toujours là. Et le frère André aussi, son petit chien de Saint-Joseph, comme il disait lui-même, de lui-même. Cher bon frère André, j'aime bien sur le livre de l'abbé Jean-Guy Dubuc, le frère André paru chez Fides il y a 2 ans, cette belle photo du frère André, au léger sourire, très doux.